Ben, bienvenue à la moustache aplacide, puis aujourd'hui, c'est la fois où est-ce qu'on s'émoigne d'une archiviste. Ça fait... on va laisser la parole à l'archiviste.
Ben, bonjour, moi c'est Christine Dupuis, je suis archiviste au Centre d'études acadiennes en Seine Chiasson. Puis aujourd'hui, je pense qu'on va parler de c'est quoi le métier d'archiviste.
Puis moi, je suis Robert Richard.
Puis moi, je suis François Leblanc Lapareil. Ça fait, on va voir, qu'est-ce que ça fait un archiviste, anyway?
Ben, un archiviste, premièrement, c'est quoi? C'est un professionnel de la gestion des archives. Des archives, il y a plein de différents types d'archives. Au Centre d'études acadiennes, on a spécifiquement deux types d'archives, les archives historiques, qui sont les archives d'histoire de l'Acadie, puis les archives institutionnelles de l'Université de Moncton, donc tous les documents produits par l'université.
Ça doit être juste comme des boîtes.
Il ne faudrait pas oublier les archives de Feclon. Là.
Ah oui, ouais. C'est vrai. Ça, c'est un autre type d'archives. Ouais, il y a plein d'autres types d'archives.
Oublié, non, moi. C'est mon secteur à moi, ça.
On en parlera une autre fois, je pense. On pourra faire un podcast.
Non, pas aujourd'hui, non.
Mais il y a plein de types d'archives. Il y a des archives médicales, il y a des archives des entreprises.
Ça, c'est à l'externe.
Oui.
Oui.
Donc, pas nous, au centre.
Dans le secteur privé, public, oui.
Les gens, au quotidien, ils conservent des archives
oui.
aussi.
À la maison, je croirais aussi hein, qu'on a des archives.
Ben oui.
C'est plus ou moins arrangé, donc, par exemple.
Ouais. Ça n'a pas besoin d'être arrangé. Mais des archives, c'est des documents. Peu importe la date, leur forme, ça peut être sur un support souvent matériel. Maintenant, on a des documents électroniques ou numériques. Ça ajoute un peu...
Ils sont nés dans le monde...
C'est ça.
Binaire.
Ils n'ont jamais été sur format papier ou sur un support fixe comme une photo. On a maintenant des photos numériques qui n'ont jamais été imprimées.
On a des MP3 aussi, la musique.
C'est ça. Ils n'ont jamais fixé sur du ruban ou, ou sur un CD ou quelque chose. Donc,
fait que c'est d'après le forme, le support matériel.
C'est ça. Ouais. Puis c'est soit qui ont été produits ou reçus par une personne physique ou morale. Ça peut être un individu, une institution, un regroupement. Puis au centre, ben, on se concentre surtout sur tous ces documents-là, mais qui ont un lien avec l'Acadie.
On ne se concentre pas trop, par exemple. Nous autres, il n'y a pas du monde qui est trop concentré. Je ne vais pas vous croire qu'on est trop concentré.
On est un petit peu
mais
all over the place.
C'est quoi l'importance à la fois de l'Acadie? C'est ça, un document historique? C'est un vieux document comme un document plus moderne?
Les archives acadiennes comme telles, ils ne sont pas très anciens. On a cette idée-là des archives... historique, plein de poussière, des manuscrits sur des parchemins, dans le fond, d'une remise quelque part qu'on trouve
On n'a pas la feuille à Adam, là.
Ouais, Adam c'est ça. Alors, on n'a pas des très anciens documents. Puis ceux qu'on a pu conserver, il y en a très peu. Puis souvent, ils sont conservés par d'autres entités archivistiques, comme les Archives nationales de France, les Archives britanniques. Souvent, on a des copies de ces archives-là pour documenter l'Acadie, mais ce que nous, on a comme documents, c'est surtout des documents plus contemporains, parce que les documents plus anciens sont très rares pour l'Acadie. On en a très peu.
Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'Acadiens qui a resté des documents, des manuscrits là, d'avant déportation, par exemple.
Ben non. Déjà qu'il n'y en avait peut-être pas énormément.
Oui, puis à ce moment-là, ça vient d'être qui, là?
Ben c'est ça, c'est des gens plus importants, plus nobles, plus...
comme Joseph Gauguin, ou ça peut être...
Jordi Leblanc.
Ou ça peut être aussi comme Winslow, par exemple, une lettre de Winslow, une correspondance.
C'est ça, c'est pas nécessairement d'un Acadien, mais de quelqu'un qui a eu des rapports avec l'Acadie, qui mentionne l'Acadie dans son...
Puis quand que les gens viennent donner, là, c'est souvent qu'ils donnent des artefacts, puis ils donnent pas ils donnent pas nécessairement comme des archives. Ben, c'est quoi la différence entre ces deux choses-là?
Ben, des fois, c'est très difficile à faire la distinction entre archives et artefacts. Un artefact, habituellement, c'est ce qui va être au musée. Donc, c'est un objet. Il y a certains artefacts et ou archives qui sont un peu dans la zone grise. On ne sait pas trop s'il faut les qualifier d'archives ou d'artefacts. On peut prendre, par exemple, les affiches, les livres, aussi... les documents éphémères, là, en anglais, on appelle ça « ephemera ».
En acadien, on appelle quoi?
On appelle ça « le petit fatras ».
Le petit fatras, oui. Mais ces documents-là, c'est des billets de spectacle, des petites notes, des petits documents là, qui servaient pour pas très longtemps, puis qu'on
Des images dévotes, là, des images religieuses.
Des images saintes, des billets de spectacles ou d'événements. Robert, tu en as un dans ta collection sur Yvon Durel, un billet de...
Oui, j'ai un billet du combat. J'ai plusieurs billets, mais j'ai un billet du combat Yvon Durel contre Archie Moore de décembre 58.
Puis le musée en a un aussi.
Donc
ça, c'est un exemple d'un document qui est aussi un artefact par définition, parce qu'on ne sait pas trop où le... La différence est un peu peut-être que l'archiviste versus le conservateur, l'archiviste le voit comme son contenu, ce qui est écrit sur le document, puis le conservateur le voit comme un objet, donc le contenant, la forme, tout le document physique.
Puis pour la dernière fois qu'on dirait, quel genre de relation on a avec l'objet? Mm-hmm. Si c'est un moule pour faire du beurre, par exemple, mm-hmm. c'est un artefact du genre. À ce moment-là, il peut y avoir un motif.
C'est une description très physique de l'objet. S'il y a quelque chose qui serait écrit dessus, là, l'archiviste pourrait s'intéresser à c'est quoi.
Mais si c'est juste un contenant de beurre qui n'a aucune inscription, qui est juste fait de poterie ou quelque chose, c'est pas intéressant pour les archivistes.
Non. Moins.
Moins, oui.
Les archivistes seraient intéressés par des étiquettes sur des contenants ou des bocaux. Là.
Oui, oui. Des boîtes de conserve pour mettre des remords ou quoi que ce soit. Oui,
comme on disait, c'était une photo du contenant de beurre ou whatever.
Oui, c'est ça. Ouais. La photo serait intéressante à l'archiviste un peu plus que le contenant comme tel.
Puis dans tout ça, là, nous autres, on parle d'archiviste, puis on... Moi, je pense vraiment c'est comme on devient un médecin quand on est curieux, puis on dirait qu'on vient un vétérinaire parce qu'on aime les animaux. Ben, si t'aimes la poussière, t'es archiviste, c'est ça?
Ben, à peu près, non. Moi, personnellement, j'ai toujours eu un grand intérêt pour l'histoire. Quand j'étais jeune, je venais déjà au Centre d'études acadiennes faire mon arbre généalogique.
Déjà en sixième année, hein, t'as
connu? En sixième année, oui. Ouais. Je pense que c'est un petit peu à ce moment-là. Puis j'ai fait des études, mon bac en histoire à l'Université de Moncton. Puis je me suis intéressée beaucoup avec les sources premières, donc les archives originales pour aller traiter de l'histoire. Donc, que c'était des reçus. J'ai fait un projet complet avec un reçu du médecin Godette à Memron Cook.
Ah oui?
Juste en extrapolant cette pièce-là. Ah, c'est un projet d'une dizaine de pages là, sur le contexte historique de tout ça. Qu'est-ce que ça nous apporte comme vision de l'histoire?
Oui.
Puis éventuellement, ben, je me suis intéressée à partir de sources premières, là, des documents vraiment qui venaient des monsieur, madame, tout le monde à parler de l'histoire de l'Acadie de façon plus globale. Puis éventuellement, ben, je me suis inscrite à la maîtrise à l'Université Laval en archivistique, puis je me suis retrouvée...
Il y a vraiment une formation archivistique,
Il y a une formation spécifique en archivistique.
Ah, OK. Moi, je croyais que ramassais juste de la poussière, puis automatiquement, quand tu avais deux, trois bocaux de poussière,
Tu portais des gants blancs.
Tu t'envoies à la pharmacie, tu achètes une paire de gants blancs en coton, quelque chose, puis... Ouais. Non.
Ouais.
Comment ça marche,
les gants blancs?
La formation, non?
Ah, la formation, ben, c'est surtout sur la gestion des documents.
Ouais.
Il y a une composante historique, à tout ça, mais il y a de plus en plus de l'intérêt pour la gestion des documents numériques. Donc, il y a une composante aussi intéressante à ça.
Puis ça, l'emploi, c'est des débouchés d'emploi, ça peut être dans un centre d'archives comme le centre d'études ou ça peut être...
Oui, ça peut être dans...
La ville de Montréal, ça peut être...
Toutes les institutions qui gèrent un certain nombre de documents ont besoin d'un archiviste. C'est peut-être pas appelé un archiviste, ou souvent c'est un gestionnaire de gestion de l'information, de documents, tout ça. Mais donc, il y a plein de débouchés, que ce soit dans le domaine historique ou non. Là.
Ça, c'est un certificat de nom, hein?
Deux ans.
Holy man.
C'est long pour...
C'est long pour porter des gants blancs.
On dirait qu'il faut être passionné ou faut aimer ça
de
toute
façon. Oui, il faut aimer ça.
Puis vraiment...
Qu'est-ce que la motivation?
Moi?
Oui.
Ben, je sais pas, de trouver des trésors. À tous les jours, on trouve quelque chose de différent.
OK.
On sait, il faut être passionné par l'histoire ou l'information qu'on gère. Si j'étais pas intéressée par l'histoire, je pense que les documents qui me passent sous les yeux à tous les jours... Ce serait un peu trop mécanique, mais je pense que...
Puis en,
là, c'est...
En parlant de tous les jours, qu'est-ce que les choses que tu fais comme tous les jours?
Ben moi, tous les jours, c'est souvent une journée très différente.
Tous les jours aux autres, c'est au centre d'études, là. On s'entend.
À tous les jours au centre d'études, oui.
Oui.
Dans le cadre de mon travail d'archiviste.
On ne veut pas savoir comment je trouve déjeuner.
mais il y a plein de composantes au traitement des archives. Puis à tous les jours, ça peut être différent, comme ça peut être pareil pour... mais il y a surtout la composante d'acquisition. Donc, les gens viennent nous voir au centre avec des documents. Il y a des gens qui contactent, qui veulent donner des documents. Ils ne savent pas trop quels documents nous apporter, tout ça. On signe des ententes avec les donateurs. Il y a un travail de relations publiques attaché à ça. Puis, on ne peut pas tout garder. Donc, il faut faire un tri. Souvent, on enlève tout ce qui est double. Des fois, il y a des cadres. Si on pense aux certificats ou aux diplômes, ils sont souvent encadrés. Mais nous, comme archivistes, on retire ces cadres-là pour
des
conserver.
Petits clous, puis, la vitre, puis.
Conserver de façon plus facile les documents papier.
Puis pour retourner à l'artefact tantôt, la différence, c'est au musée, ils auraient gardé le cadre, les clous, tout intact, tout monté. Oui. Ici, au centre, on va démonter pratiquement.
Oui, puis souvent, c'est pour quand on démonte le cadre, c'est pour la sécurité du document. Des fois, il y a eu des dégâts d'eau, des poussières, des petits insectes qui se glissent dans les cadres, ça peut abîmer le...
C'est vrai que des fois, il y a des... Je sais que pour travailler avec toi, il y a des fois des drôles de senteurs puis des drôles de couleurs des documents.
Oui, les documents de l'archive sont pas toujours bien conservés. Souvent, c'est des documents qu'on n'a pas consultés pour des années, puis on les entrepose dans notre sous-sol ou
dans le grenier,
endroits que le niveau d'humidité n'est jamais idéal. C'est très sale.
On a trouvé de la trunk du corps et des choses de même.
Souvent, c'est ça.
Quand l'air est trop sec, c'est pas mieux aussi.
C'est vrai. Oui. On a tout l'environnement des documents.
La lumière, bien sûr. C'est la lumière du jour, l'ultraviolet, sur une photo couleur, ça va user les couleurs.
Se fixe très bien si c'est très humide. Des fois, dans les sous-sols, il y a des poussières, des animaux, des fois même.
Des inondations.
On a reçu des documents, des fois, qu'on ne peut pas sauver parce qu'ils sont en trop mauvaises conditions.
Ouais.
Puis,
les pages sont collées.
C'est ça. On ne peut plus lire ce qu'il y a dessus. Ouais. Puis certains types de papier aussi. Il y a à un moment donné un genre de papier oignon qui... C'était pour les fax.
Oignon!
Puis ce papier-là est très mince, puis illustré, puis l'encre s'efface. Donc, même aujourd'hui, puis c'est des documents qui datent des années 90, là. Puis on ne peut plus lire qu'est-ce qu'il y avait
ça
dessus.
Ça devient pâle, oui, c'est
vrai. Ça devient très pâle. Ouais. Donc, il y a tout ça à évaluer.
Mais sur le coup de faire un triage parmi tout ça, comment est-ce qu'on arrive à le faire? Il y a des documents, certains documents peut-être que tu vas conserver malgré qu'il est souillé, malgré qu'il est...
Oui, dépendamment de l'importance du document. Est-ce qu'on peut le retrouver quelque part d'autre?
Oui.
Parfois, une copie peut être faite. On peut numériser une copie d'un document qui est très abîmé, puis ensuite...
Si ça se trouve ailleurs, comme aux archives provinciales,
si
aux archives nationales du Canada...
Si tu peux avoir une copie, on n'hésite pas à pour assurer la sécurité des autres archives qui l'entourent. C'est surtout on garderait ces documents là.
C'est d'isoler, bien sûr, on isole
puis c'est ça, on veut conserver l'entièreté des autres documents puis pas compromettre ces documents là à des moisissures, à des choses qui pourraient abîmer.
Puis là, je crois bien qu'après ça, tu ne prends pas juste tous les papiers et tu les garoches en arrière. Tu dois avoir une telle manière de classer ça.
Il faut organiser les documents. Le classement, c'est très important. Les mettre dans un ordre logique. Il y a certains documents d'archives que les donateurs nous les ont apportés. Ils ont été organisés de façon très méticuleuse avec des listes puis des descriptions de chacun des objets. Il y a d'autres, des fois, c'est un fouillis total. On n'a aucune idée où commencer. Oui.
Pêle-mêle. Il n'y a pas d'ordre.
Il n'y a aucune ordre.
Ou un certain ordre, mais un ordre, un désordre. Ouais.
Là, ça met, ici, Christine a parlé d'ordre logique.
Logique.
Ben, il y a des fois, là, c'est pas des ordres logiques.
Bon, en même temps, c'est l'ordre du donateur.
C'est ça.
Ça a considéré ça aussi. C'est pas rien, non?
Souvent, quand on fait le classement, on note le raisonnement derrière le classement.
Ouais.
Est-ce que le classement suit l'ordre que le donateur a établi ou si l'archiviste a fait un classement puis
autre.
A établi cet ordre-là différent de celui que le donateur avait fait.
Ouais.
Puis ensuite, il faut décrire les documents. Les documents, nous arrivent souvent un peu pêle-mêle ou pas décrits. On ne sait pas, il faut garder le contexte. Des fois, des documents qu'on n'a aucune information. Les photos, par exemple, souvent, on reçoit des collections complètes de photos de gens inconnus. On n'a aucune idée.
Puis souvent, on les connaît parce que c'est des photos qui reviennent de personnages publics ou des personnages de nos régions.
Oui, ceux-là, on peut les reconnaître, mais des photos de famille, souvent, si ils ne sont pas identifiés, ça devient très difficile de pouvoir les décrire. Donc, de là, il y a un travail à faire pour les...
Puis là, ça, c'est dans le but de faire quoi?
De diffuser les archives. Okay. Donc, le but ultime de tout ça, c'est de faire connaître les documents auprès des chercheurs, puis d'en parler avec le grand public aussi.
De quelle façon qu'on fait la diffusion?
On est en train d'en faire tout de suite. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de faire un podcast, de diffuser qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on connaît, mais aussi il y a des différents endroits. Ça, c'est plus, on dirait, mon domaine, c'est d'aller dans les écoles, c'est faire des visites avec les gens qui viennent ici, vraiment partout. C'est ça la partie qui nous manquait jusqu'à ce jour pour qu'on essaye de plus faire un effort pour mettre de l'avant.
Oui.
Ça fait, c'est...
Quels sont les usages ou les utilisateurs de ces archives?
Souvent, c'est les chercheurs en histoire, en littérature, tout ce qui parle à la culture acadienne.
Les professeurs,
beaucoup de gens en généalogie viennent consulter des archives aussi, mais la plupart des gens, c'est des chercheurs, des académiques. Puis nous, notre objectif, c'est que tout le monde puisse avoir une utilité avec les archives.
Oui. Puis ça peut être aussi dans des contributions... pour des films documentaires, pour divers médias.
La télé,
la radio, pour une exposition muséale. Il y a différentes sources, là, où ça peut être même peut-être des centres touristiques, des photos historiques.
Des expositions muséales.
Les possibilités sont innombrables. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les documents du centre que ça... On pourrait passer à
35
minutes, 40 minutes à
juste
parler. Ça.
Pas plus longtemps que 40 minutes. Je pense que c'est son limite. Juste pour terminer avec qu'est-ce que c'est être un archiviste, qu'est-ce que les coups de cœur que tu aurais, Christine? Qu'est-ce que les documents
chouchous
que tu as?
Chouchou.
J'ai eu la chance de travailler dans une...
Quand est-ce?
Il y a 2 ans.
Oui.
Une exposition sur le bataillon acadien. De la Première Guerre mondiale, en partenariat avec le Musée acadien, puis l'Institut d'études acadiennes. Puis,
de l'Université de Moncton, bien sûr.
Oui, tout ça sur le campus. Puis la recherche m'a apporté à découvrir des documents très personnels, des archives de correspondance des soldats quand ils étaient sur le front, des lettres qu'ils envoyaient à leurs parents, à leurs bien-aimés, tout ça. Puis ça parle vraiment du côté personnel, de ce qu'ils vivaient vraiment pendant la guerre. Là, c'est quelque chose de... C'est très tangible d'aller chercher qu'est-ce qu'ils pouvaient penser. Là. C'était quoi cette réalité-là de la guerre qu'on parle pas habituellement quand on est... on fait l'histoire de militaire.
C'est ça, avec un anniversaire. C'était un anniversaire quand même, hein?
Oui.
Avec un anniversaire, ça permet de... Si tu veux, de mener des études, de monter des expositions sur le sujet, puis d'acquérir de nouvelles connaissances, briser des mythes.
C'est plus facile de mousser l'intérêt quand c'est un anniversaire. Des fois, lorsqu'on dit « Ah, c'est le 62e anniversaire de quelque chose, c'est moins sexy ou moins intéressant que si ça serait comme
centenaire,
là, c'était le centième anniversaire de
la fin de la
Première Guerre mondiale. » Ça fait là, c'est vraiment là que l'intérêt est plus palpable.
Donc, c'est ça, c'est mon coup de cœur des archives. C'est sûr qu'il y a plein de documents qui m'intéressent. Puis,
tu as même chose, c'est une autre chose que je pourrais ajouter, que j'ai noté. Des exemples de fonds d'archives qu'on a ici, des plus anciens aux plus modernes, des exemples.
On a plus de 1500 fonds d'archives dans les archives privées du Centre d'études
acadiennes. Puis il y en a des plus gros, des plus petits.
Le volume d'archives, il y en a, ça peut aller de un document, une feuille, à des centaines de boîtes. Là. Si on pense le fonds Placide Godette, le premier, il y a presque 85 boîtes, je pense.
OK.
Donc, c'est quand même énormément de documents. Là,
Puis Placide, là, juste pour le mettre dans le contexte historique, un petit
erreur. Il parle surtout de l'Acadie, de la déportation, des débuts de l'Acadie, beaucoup de généalogies, d'histoires familiales, du retour après la déportation. Puis ça, c'est un exemple d'archives plus anciennes qu'on a. C'est quand même le fond numéro un.
Il a vécu un certain temps passé, lui-là.
Oui.
Puis il avait une belle moustache.
Oui.
C'est pour ça qu'on a appelé le podcast la moustache à Placide. Oh mais
c'est comme quand ils disent le titre du film dans le film.
Dans le film.
Ouf.
Ah, bon. mais il y a des fonds beaucoup plus récents. On a le fonds de la Société nationale de l'Acadie qui est aussi plein de boîtes.
Quand c'est des archives qui sont, des archives historiques plus, quand ça fait plus de 7, 8 ans ou à peu près 6 ans.
Oui, une dizaine d'années après que ça a été utilisé pour la dernière fois, là, ça peut devenir archive. Ouais. Mais c'est des archives surtout contemporaines qu'on a dans nos archives acadiennes.
Puis c'est à la fois des individus et des organismes, comme tu as dit au début.
Ah oui, on a des...
Société des Jeux de l'Acadie, la Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick, le Conseil provincial des sociétés culturelles.
Des individus, on a Viola Légère, Antonine Maillet, dans les plus contemporains.
Robert Richard,
les individus peuvent avoir. Là. Oui. Puis des fois même, c'est des gens qui nous apportent les documents qui appartenaient à leurs grands-parents. On crée des fonds d'archives, de la correspondance, des photos.
Des cartes postales.
Des cartes postales aussi, c'est un archive. Souvent aussi, si c'est écrit derrière. Là,
on dirait qu'il y a eu des époques, évidemment, où est-ce que c'est que certains types de médiums étaient importants, comme les diapositives.
On peut prendre l'exemple aujourd'hui, on envoie des courriels. Nos courriels deviennent des archives. Mais dans le temps, on avait des cartes postales, des lettres manuscrites.
Des appareils photo, des 35 mm.
Des films.
Je suis sûr qu'on pourrait continuer à en parler. Ça sera peut-être un deuxième podcast qu'on verra peut-être comme qu'est-ce que les documents qu'on a cachés derrière.
Puis admettons, peut-être qu'il y aura du monde de l'auditoire qui s'intéresserait à nous poser des questions là-dessus, donc sur qu'est-ce qui a été dit.
Je sais que ma mère va écouter, moi il y a ma mère qui répondrait des questions.
Comment est-ce qu'on fait pour faire un don, par exemple?
Il y a plein de différentes choses, mais ça sera pour un prochain podcast, puis on va espérer que vous tiendrez la ligne, puis vous viendrez voir nos prochains podcasts. Mais en parlant du prochain podcast, il va probablement avoir un podcast qui s'en vient prochainement, puis ça va être la fois. On parle toujours de la moustache à Placide. La fois où est-ce que Yvon Durel s'est battu. Vous avez déjà entendu parler de ça. C'est tout pour aujourd'hui. Puis merci. Puis ici, il y a François, Christine, puis Robert à l'appareil. Puis on vous promet la prochaine fois.
À la prochaine.
Merci, bye.